très heureux de voir que, avec les vacances, vous persistez. Vous voulez pas partir en vacances, peut-être ? Non ? Vous aimez Paris ? Vous aimez ? C'est vrai que ces derniers jours, ça faisait peut-être plaisir d'être à Paris, ou pas ? Je sais pas. Ceux qui étaient dans le métro ce matin, ou le... Non ? Vous avez réussi à aller travailler ? Voilà. C'est bien. On a pendant plus de 2 mois maintenant, à peu près, hein, étudié, vu ensemble, échangé. Peut-être que vous n'étiez pas là, mais vous avez pu peut-être suivre sur Internet quand on pouvait le faire, on les mettait. On a fait toute cette série sur le livre des Romains. Et on arrive ce soir au dernier chapitre, au chapitre 16. N'hésitez pas, si vous avez raté, à peut-être retrouver sur Internet. Il doit rester normalement encore les liens audio. Ce soir, c'est encore enregistré pour ceux qui ne pourront pas être là. On arrive au dernier chapitre, au chapitre 16. Alors allez-y, on va pas tout lire, bien sûr, mais on va s'arrêter sur certains points clés. Et on lira surtout la fin aussi de ce passage, parce que je crois que c'est bien qu'on puisse s'attacher, parce que la fin de cette lettre nous est aussi adressée. Alors ce chapitre 16, comme beaucoup de fins de lettres de l'apôtre Paul, eh bien, c'est le chapitre des salutations. Il y a d'autres parties qu'on verra, mais il y a une grande partie, il y a 16, 17 versets, plus de la moitié qui traite de salutations. Et alors, je ne sais pas vous, quand vous lisez ces passages, comment vous les lisez, mais c'est vrai qu'à première vue, on peut se demander, bon, peut-être que je suis le seul à m'être posé cette question, mais on se dit, mais Seigneur, franchement, il y a un peu beaucoup de noms. En plus, c'est difficile à lire, c'est bien pour travailler la dextérité vocale, mais c'est dur, Seigneur, il y a tellement de noms qui s'enchaînent, on ne les connaît pas. L'apôtre Paul, il parle d'eux, ok, mais nous, Seigneur, qu'est-ce que ça peut m'apporter spirituellement ? On sait, qui ne s'est jamais posé cette question, franchement ? C'est vrai, ça arrive. Moi, le premier, surtout avant, aujourd'hui, je suis quand même plus discipliné, et puis je vais vous raconter une petite anecdote. Mais on a tendance tous, naturellement, à passer très vite quand on lit ces passages, et puis on s'arrête aux versets un peu plus clés, à la nourriture un peu plus solide. Mais quand même, la Bible nous dit qu'il ne nous faut retirer aucun iota, aucune lettre. Le iota, c'est le point sur le i. Il ne faut retirer rien, aucune lettre de la parole de Dieu. Alors je me dis quand même que si c'est toutes ces personnes qui nous sont écrites, décrites, parfois très succinctes, sont indiquées dans ce chapitre, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut en tirer pour nous. Et on va essayer d'en tirer quelque chose pour nous ce soir. Et je vous disais, moi j'ai fait l'expérience parce que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance aussi à lire très, très rapidement ces versets et puis à passer à autre chose. Et avec mon épouse, quand on n'était pas encore mariés, on commençait à se fréquenter, c'était très amical, très spirituel, très chrétien, il n'y avait pas encore de grandes déclarations d'amour. Mais on avait l'habitude de s'envoyer des petits versets, des encouragements, des sujets de prière, etc. Et on s'envoyait, ça faisait déjà plusieurs jours qu'on le faisait. Et un jour, mon épouse, qui voulait me faire une blague, voulait sourire avec moi, mais moi je ne comprenais pas encore son humour à l'époque. Pardon. Et inversement, elle ne comprenait pas mes blagues de français et moi, ces blagues de paraguayenne. Et elle m'a envoyé ce joli verset de Romains 16, verset 1, qui nous dit « Je vous recommande Phébé ». Alors Phébé, ça peut être Phébie, hein, si vous ne le saviez pas, c'est le même prénom. « Je vous recommande Phébé, notre sœur ». Et moi, quand j'ai reçu ce SMS, je ne me rappelais même pas que c'était vraiment ce nom-là qui apparaissait dans la Bible. Et puis, je n'avais pas vraiment fait de lien avec elle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, m'envoyer un verset de la Bible comme ça? Elle a détourné un verset, elle a mis son nom et tout comme ça. Je me suis dit, elle exagère un petit peu, quoi. Et moi, à l'époque, j'étais très sincèrement, très légaliste aussi. Et la parole de Dieu, il ne fallait pas rigoler avec, il ne fallait pas détourner les choses. Et puis, je me suis dit, je vais aller voir. Et puis, je suis allé voir Romains 16, 1 et j'ai vu, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le prénom de mon amie à l'époque, Phoebe. Et je me suis dit, je vais être sympa, je vais lui répondre. Je vais lui répondre et je vais trouver un verset où il y a bien sûr des versets dans la Bible qui parlent de Timothée, puisque Timothée est dans la Bible. Eh bien, vous savez quoi ? Alors, certains pourraient dire que c'était un clin d'œil du ciel. Mais dans Romains 16, quelques versets plus loin, le verset 21, qu'est-ce qu'il nous dit ? Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue. Eh bien, je lui ai envoyé ce verset. C'était bien, hein ? C'était sympa. Alors ça, cette anecdote, il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui pourront vous la raconter, moi qui s'appelle Timothée et Phoebe, mais nous on a vécu ça, et pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que du coup, je me suis intéressé à ces prénoms, ça m'a forcé à aller chercher dans la Bible, et à aller voir cette Phoebe, et aller voir ce Timothée, enfin Timothée je connaissais un peu plus, puisqu'il y a un livre, et puis Paul en parle beaucoup plus, mais tout simplement pour vous dire qu'il y a quand même un intérêt à aller voir, alors allez voir si votre prénom, peut-être que vous n'avez jamais vu, peut-être que votre prénom dans la Bible, peut-être que le prénom, n'allez pas chercher le prénom de votre conjoint si vous n'êtes pas marié, à prophétiser des choses. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire ce soir. Hein, non. Mais en tout cas, intéressez-vous. Prenez le temps de peut-être d'étudier. C'est vrai que ça demande, et c'est ce que j'ai fait en préparant ce message, ça demande de, peut-être d'étudier un petit peu, de regarder l'histoire, de regarder le contexte pour comprendre un petit peu pourquoi ces noms sont cités dans ce passage. Alors, je vais vous les citer un petit peu. Je vais m'arrêter un petit peu sur certains. D'autres, je vais un peu plus passer. Mais tout simplement, pour arriver à une conclusion, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de toutes ces personnes et finalement, pourquoi l'apôtre Paul nous a parlé d'eux. Donc, je cite les noms, je survole les versets, les 16 premiers versets. Attendez, j'ai passé même des notes, j'étais tellement vite dans mon passage. Avant de lire ces noms, je veux juste remarquer un petit peu toute la logique de l'apôtre Paul. Parce que moi, j'aime bien ça, parce que l'apôtre Paul, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire merci, de devoir faire des remerciements. Mais souvent, quand on commence, on se dit, mince, j'aurais pas dû commencer parce que je vais oublier quelqu'un. C'est vrai ? Et l'apôtre Paul, il s'en tire bien. Parce qu'il va citer environ 29 personnes au moins. Et puis, quand il n'est pas sûr de lui, il va citer un groupe de personnes. Mais l'apôtre Paul, vraiment, il prend très au sérieux cela. Et on peut vraiment dire que tout le monde s'y retrouvait dans cette lettre, soit directement ou soit très indirectement. Et je trouve ça remarquable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'apôtre Paul, l'apôtre Paul cherche vraiment à valoriser, à mettre en avant, à honorer ces personnes. On va le voir dans quelques instants. Il cherche pas juste, c'est pas une généalogie que l'apôtre Paul il est en train de faire. C'est vraiment une mise en avant. Il veut vraiment saluer. Et c'est une salutation très respectueuse qu'il fait en nommant ces personnes. Et c'est vraiment très important de sens pour nous. L'apôtre Paul cite des hommes et des femmes, beaucoup de femmes, on va le voir, des hommes aussi. Il cite des catégories, tu peux continuer, voilà. Il cite des catégories de personnes différentes. On va voir, Phébé était une diaconesse, des apôtres. Il cite des familles, des maisons. Il cite des anciens esclaves, des simples croyants, si je puis dire. Toutes les catégories de personnes dans l'Église sont citées. Tout le monde peut s'y retrouver dans cette citation, dans ces versets. Donc, je l'ai dit, il y a au moins 29 personnes qui sont citées dans ces 16 premiers versets. Avec des qualificatifs qu'on va voir. Et ma prière ce soir, c'est que vraiment, je crois que ça peut être le cas déjà au milieu de nous, mais qu'en tout cas, de tels qualificatifs, de tels titres d'honneur puissent se trouver au milieu de nous. Vous allez le voir dans quelques instants. Alors, il est question d'abord de Phébé, je l'ai dit. Phébé était une diaconesse. Diacre, ça veut dire tout simplement serviteur, servante. Et la Bible nous dit qu'elle a été recommandée par Paul pour qu'on prenne soin d'elle. Et quand vous regardez un petit peu l'histoire, alors, c'est jamais sûr à 100%, mais beaucoup s'accordent pour dire que certainement, c'était une femme qui avait l'habitude d'honorer, de servir particulièrement les serviteurs de Dieu, et notamment Paul. Et c'est peut-être pour ça même que son service était si fort, que l'apôtre Paul va l'honorer en la nommant textuellement diaconesse dans ce passage. L'histoire nous montre aussi que peut-être c'est elle qui était chargée de prendre la lettre des Romains et de l'envoyer aux Romains. C'est pour ça qu'il dit vraiment, prenez soin d'elle aussi, parce qu'elle a vraiment de l'importance dans le cœur de Paul. Donc ça, c'est Phébé, diaconesse, prenez soin d'elle. Retenez ces phrases, ces mots. Ensuite, c'est Priscille, et Aquilas. Eux, ils sont nommés comme des compagnons d'œuvre, des compagnons de service avec qui l'apôtre Paul a travaillé. Et la Bible nous dit qu'ils ont exposé même leur tête pour Paul. Ils ont servi, ils ont accompagné l'apôtre Paul au péril de leur vie. Et on peut comprendre que l'apôtre Paul désire aussi les honorer dans cette lettre. Il les cite clairement. Et si vous voulez voir un peu plus d'eux, il en est fait mention dans Actes 18. Mais là, ce sont des compagnons d'œuvre. Moi, j'aime beaucoup ce mot. Il y a quelques années, je sais que l'apôtre Franck Le Filâtre avait décortiqué les différents types de compagnons. Vous pourrez peut-être retrouver aussi ce message. Mais c'est tellement bien. Et moi, j'aspire et je le crois vraiment que nous puissions voir et compter par dizaines au milieu de nous des hommes et des femmes qu'on appellera des compagnons d'œuvre. Amen ? Vous n'êtes pas convaincus ? J'aimerais vraiment qu'on puisse un jour me dire « T'es vraiment mon compagnon d'œuvre, Timothée. » Et j'aimerais vraiment pouvoir dire « Toi pour moi. » Et que chacun d'entre nous puisse dire et voir autour de lui, il y a vraiment, et qu'il s'unisse, qu'il s'accorde avec quelqu'un qui soit vraiment son compagnon d'œuvre, de service, avec qui il va travailler, avec qui il va peut-être pleurer, avec qui il va peut-être prier, avec qui il va aussi remporter des victoires, avec qui il va vraiment pouvoir avancer. Ça, c'est aussi la puissance de l'Église. On va le voir tout à l'heure, c'est de pouvoir trouver des compagnons Alors en avez-vous autour de vous? Si vous n'en avez pas, eh bien on va travailler pour ça et vous allez travailler aussi pour ça dans les temps qui vont venir. On continue, après il est fait mention de Ephaïnet. Le nom de cet homme veut dire digne de louange. Et là pour le coup, c'est ce que fait l'apôtre Paul, puisqu'en le nommant dans ce livre, eh bien on peut dire que c'est une certaine louange qu'il fait à cet homme, il l'honore. Et puis il va l'appeler mon bien-aimé. C'est fort, c'est touchant. Un apôtre Paul, quelqu'un de très distingué, quelqu'un qu'on, en tout cas qui pouvait sembler comme ça, il va nommer cet homme qu'on ne connaît pas mon bien-aimé. Quelqu'un qui était attaché, il y avait vraiment un sentiment. Et on pense que c'est certainement dû au fait, et c'est ce que nous dit aussi les Écritures, que c'était le ou l'un des premiers enfants spirituels que Paul avait vu naître en Asie. Alors peut-être le fait qu'il était tout jeune dans la foi, eh bien, a créé un attachement avec Paul, et Paul l'appelle mon bien-aimé. On aime ce mot, bien-aimé. Retenez ces petits mots-là que je vous dis. Ensuite, il est fait mention d'une femme, Marie. Cette femme, Marie, elle était passionnée par l'Église, parce qu'il est dit qu'elle avait pris beaucoup de peine pour l'Église. Une autre version dit qu'elle s'était beaucoup dépensée pour l'Église, pour cette Église de Rome. Et Paul dit qu'elle était vraiment passionnée. Paul la recommande, la salue, parce qu'elle s'est vraiment dévouée. C'est bon comme ça d'avoir des chrétiens, des croyants, d'avoir des hommes et des femmes qui sont dévoués, passionnés, qui se donnent beaucoup, qui s'engagent, qui sacrifient parfois pour l'Église. C'est bon d'avoir ça. C'est bon que le corps de Christ soit composé de tels hommes, de telles femmes qui sont prêts à donner, à se sacrifier, à offrir pour l'Église. Ça, c'est bon pour le corps de Christ. Ensuite, il est fait mention de deux autres personnes, Andronicus et Junias. Alors là, il y a un petit hic. C'est qu'il y a tout simplement eu, en tout cas dans la version Louis II, un souci de traduction. Notre ami Louis II avait peut-être peur, je ne sais pas, à l'époque. Mais dans la version, et dans d'autres versions, ce n'est pas comme ça, mais dans la version la plus courante de Louis II, vous avez un S à Junias. Nous présentons donc deux apôtres, deux hommes. Le souci, c'est que si vous allez dans le grec, Junias s'écrit Lounias et c'est un prénom féminin. Et dans d'autres traductions qui ont voulu respecter ce nom-là, on dit Junia. Donc peut-être dans votre Bible, si vous avez la Semeur, je crois que c'est comme ça, c'est Junia, il n'y a pas de S. Il s'agissait donc d'un couple d'hommes et femmes, apôtres. Bon, je ne m'étalerai pas trop sur le sujet, peut-être que je ne veux pas créer des polémiques ce soir, mais je crois et nous croyons que c'était un couple d'hommes et de femmes. On ne sait pas s'ils étaient mariés et femmes, la Bible ne nous dit pas s'ils étaient mariés, mais en tout cas, ils avaient ce titre explicitement, il est question d'apôtre au sens pluriel, pour cet homme et pour cette femme, Junia. Et l'apôtre Paul les qualifie même de parents. Alors là encore, on ne sait pas si c'était un lien de sang, qu'il y avait un lien de sang avec ce couple, ou si c'était plutôt un lien honorifique, un titre honorifique, un parent, comme on pourrait en avoir aussi. En tout cas, il dit que ce couple a connu des temps difficiles et que l'apôtre Paul parle de captivité. Ils ont vécu des temps, on ne sait pas si la captivité était jusqu'à aller dans une prison, mais en tout cas, ces apôtres-là, dans certainement l'exercice de leur ministère, et on savait que dans le temps de l'apôtre Paul, bien sûr, prêcher Jésus-Christ, ce n'était pas la facilité, ils ont vécu la captivité. On peut vivre aussi ça. On peut vivre aujourd'hui cette forme de captivité aussi. Et l'apôtre Paul veut honorer ceux qui n'ont pas eu peur, ceux qui n'ont pas craint d'être captifs pour les hommes. Je continue. Là, je vais un peu plus vite. Amplias, encore un homme qui est appelé bien-aimé dans le Seigneur. Urbain, compagnon d'œuvre, il est appelé. Stachys, bien-aimé encore une fois. Apelles, il est dit qu'il a été éprouvé par Christ. Et Paul souligne l'épreuve et donc l'attention qu'il attend des chrétiens. En citant le nom de cet homme, Paul s'attend à ce que les chrétiens prennent soin de particulièrement parce qu'il a été éprouvé, parce que ça a été difficile pour lui. C'est important. L'apôtre Paul, vous imaginez, il est en train d'écrire une lettre à des centaines de personnes, des milliers de personnes. Et là, il s'arrête sur une personne qui a éprouvé des épreuves. Il y en avait d'autres, certainement. Mais lui, il veut vraiment qu'on prenne soin de cet homme. Et ça, c'est important aussi pour nous, d'être capable de nous occuper du détail, de la personne détail, vous savez, la personne qui est insignifiante, la personne qui vit son épreuve dans son coin, qui n'en parle à personne, qui souffre beaucoup, mais qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin d'être appuyé par l'Église. Ça, c'est encore une force. Et c'est pour ça aussi que ce nom est cité à cet endroit. Ensuite, je disais tout à l'heure, Aristobule, Hérodion et Narcisse étaient, semble-t-il, d'anciens esclaves. Et moi, j'aime cette image parce que cela nous rappelle que, et c'est aussi l'un des fondements de l'Épître aux Romains, que le salut n'a pas de distinction. Le salut était pour les hommes libres comme les hommes esclaves. Le salut était pour les hommes comme pour les femmes, les riches comme pour les pauvres. Et en citant ses anciens esclaves, l'apôtre Paul nous rappelle que le salut est pour nous tous. Amen. Que le salut n'a pas de distinction, le salut n'a pas de alinéa. Le salut est pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et eux ont cru et sont appelés enfants de Dieu. Je continue, il y en a trois autres, Tryphène, Tryphos et Perside. Eux, ils sont cités comme des grands travailleurs pour le Seigneur. C'est un titre peut-être très, très humain, mais ils sont des grands travailleurs. Moi, j'aime bien aussi ce terme, être un grand travailleur pour Jésus-Christ. Il parle ensuite de Rufus et sa mère. Et les commentateurs nous disent, l'histoire nous montre que peut-être il s'agirait, Rufus, du fils de Simon de Cyrène, donc c'est-à-dire celui qui avait porté la croix de Jésus. Et de ce fait, l'apôtre avait certainement eu un lien aussi un peu plus particulier, intime, et il recommande aussi tout particulièrement ce fils et sa mère, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de père. Et puis enfin, il termine avec une liste de personnes, Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères, vous voyez, les frères qui sont avec eux, pour oublier personne, Philogogue et Julie, Néré et sa sœur, Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Comme ça, il est sûr qu'il a brassé tout le monde. Comme ça, normalement, il a oublié personne. Personne lui refera une lettre pour dire « Paul, tu m'as oublié ». Non, bon, ça peut arriver, mais bon, je ne pense pas. En tout cas, on sent bien dans l'intention de Paul de vraiment être très précis et de vraiment bénir un maximum de personnes. Et si ça ne suffit pas, l'apôtre Paul continue. Là, on est au verset 17, si je ne me trompe pas, ou 16. 16, l'apôtre Paul devient plus généraliste. Et puis, comme s'il disait, si ça ne vous suffit pas, saluez-vous d'un saint baiser. Si j'ai oublié quelqu'un, ben vous, entre vous, prenez le temps de vous saluer, prenez le temps de vous bénir. Et vraiment, par ce saint baiser, c'était quelque chose qui était très caractéristique pour les chrétiens à l'époque. Et c'était vraiment, il n'y avait pas là une marque condescendante, une marque irrespectueuse. Au contraire, un saint baiser, c'était vraiment une marque d'attachement, une marque d'affection, une marque de respect, de confiance entre les chrétiens. C'est comme si l'apôtre Paul était en train de dire aussi, prenez soin vraiment les uns des autres. Comme si ce saint baiser était là aussi pour se rappeler, pour prendre le temps, pour s'arrêter devant quelqu'un et pour prendre de ses nouvelles. C'est pour ça qu'on prend le temps aussi de saluer, c'est pas un saint baiser aujourd'hui, peut-être que c'est une bise ou alors c'est un bon serrement de main, ça suffit très bien aussi. Mais c'est toute l'intention qu'il y a derrière, c'est toute la compatie qu'il y a derrière, c'est regarder la personne dans les yeux quand on la parle, c'est lui dire ça va mon frère, sans aller chercher la petite bête dans sa vie ou chercher le moindre détail, mais lui dire ça va, bonne semaine, que le Seigneur te bénisse. Et c'est important, gardons ces habitudes. Sans en faire des rituels, mais gardons l'habitude de prendre soin par des choses ainsi, aussi simples, aussi insignifiantes que cette salutation. On peut prendre le soin des autres par des prières, des intercessions, des supplications, mais commençons par ces choses toutes simples. Quand on se voit, de prendre le temps de se saluer, ce sont des choses qui sont tellement bonnes pour nos vies. Je continue. Avant de continuer le reste du chapitre, j'aimerais juste m'arrêter un instant conclure un petit peu sur toute cette liste. Parce que finalement, je ne sais pas si vous commencez à comprendre un petit peu là où je veux en venir, mais l'apôtre Paul avait vraiment ce désir de prendre soin et d'honorer ces personnes parce qu'elles avaient vraiment été un bénéfice pour l'Église de Rome. Elles avaient vraiment été une bénédiction et l'apôtre Paul veut vraiment le souligner. Et quand je lisais ce texte, je me suis fait cette simple réflexion et je vous la soumets ce soir aussi pour que peut-être vous puissiez la faire pour nous, vous-même. Et on va un petit peu l'expliquer après parce que vous allez peut-être me dire, vous allez peut-être pas être d'accord, mais si ce soir on devait citer mon nom dans une lettre, votre nom dans un écrit, si ce soir on citait votre nom aux informations, si ce soir votre nom apparaissait dans une ligne dans un journal païen du monde, d'accord, ou dans une revue chrétienne, ou j'en sais rien, n'importe quoi, dans un message, dans un post sur Facebook, ou sur un tweet, sur Twitter, si votre nom apparaissait sur cet élément, comment apparaîtrait-il? Quels seraient les qualificatifs qui le précéderaient ou qui le suivraient? Je l'ai posé pour moi, cette question, très sincèrement, et je nous la pose ce soir. Comment serions-nous qualifiés par ceux qui nous voient, ceux qui nous entendent, ceux qui nous connaissent ou ceux qui ne nous connaissent pas aussi d'ailleurs? Comment serions-nous qualifiés par ceux qui nous entourent? Peut-être qu'on serait qualifié comme l'apôtre Paul a qualifié ses hommes, on serait qualifié de bien-aimé. Voilà, c'est mon ami, mon meilleur ami, mon confident. C'est mon compagnon d'œuvre, mon compagnon de combat, mon compagnon de service, mon compagnon de captivité, mon compagnon de prière. Est-ce qu'on serait cité comme ça? Peut-être, c'est génial d'être appelé comme ça. Est-ce qu'on serait qualifié de digne de confiance? Quelqu'un de sûr, de solide, de fort? Est-ce que ça serait ce qualificatif? Je souhaite vraiment pour nous tous. je souhaite et je prie vraiment qu'on puisse, en tant que chrétien, être qualifié de cette bonne manière. Et peut-être que ça serait plus nuancé. Peut-être qu'on nous dirait, alors lui, c'est un bosseur. Non, mais c'est vrai, franchement, on lui met un projet dans l'église, vraiment, il est efficace, il travaille bien, le projet, il va réussir. Mais bon, quand on est en réunion d'équipe, ça fait mal. Hein. Il y en a qui sortent de la réunion, ils pleurent, il y en a qui ont mal au ventre au début de la réunion parce qu'ils ont peur d'échanger avec lui, parce que lui, c'est le projet, hein. Les personnes, c'est secondaire. Hein. Il y a personne comme ça, personne ne va lever la main, bien sûr. Mais ça n'existe pas dans l'église ? Si, ça existe. Ça existe, on peut voir des personnes très compétentes, très fiables, des personnes même qui aiment le Seigneur, je ne remets pas en cause ça, mais qui aussi ont un caractère, des réactions qui sont très 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 fous, au quart de tour, qui démarrent au quart de tour. Alors, il y a cette sœur, elle a une voix magnifique, mais quand elle descend de l'estrade, sa voix, c'est pour faire des commérages, c'est pour parler en mal des autres chanteurs, des autres personnes, c'est pas arrivé, hein, Je ne vous cite pas un exemple que j'ai vécu, mais ce sont des choses qui arrivent. Des personnes qui sont sur une estrade, même parmi les prédicateurs, des personnes qui ont un rôle. Et malheureusement, eh bien, on n'arrive pas à les qualifier de ce bon titre, on les qualifie d'autre chose qu'on a entendu, d'un mauvais témoignage, c'est dommage. C'est terne, c'est nuancé, c'est déséquilibré. Il y a ce frère, oh, il est très discret ce frère, on ne l'entend jamais dans l'église, il ne fait jamais un problème. C'est toujours le premier arrivé, c'est toujours le dernier parti, etc. Oui, mais bon, dans son groupe de maison, il casse du sucre sur l'église, hein, sur le pasteur. Hein. Il se lâche en groupe de maison. Hein. Ça n'arrive pas non plus. Je suis très direct, mais je pense que c'est des choses qui arrivent. Peut-être pas explicitement ces exemples-là. Vraiment, ce que je vous dis là, ce n'est pas des exemples que j'ai vécus, c'est vraiment des choses que j'invente. Mais je pense parfois que ce sont des choses que nous vivons. Et parfois, quand on qualifie, quand on voit des personnes, eh bien, on a le témoignage est terni. Parfois, c'est même beaucoup plus dur. Et parfois, c'est un peu comme l'apôtre Paul avec Alexandre le forgeron, vous savez. Lui aussi, il a eu son nom dans une lettre à un moment donné. Et c'est là le seul passage vraiment dur que l'apôtre Paul dit. Il a dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal ». Voilà le témoignage que nous laisse cet homme. On ne connaît rien de sa vie, si ce n'est qu'il a fait du mal à l'apôtre Paul. Et c'est dur si nous aussi, quelqu'un, la seule image, le seul témoignage, la seule conséquence qu'on aurait de nous, ça serait « Timothée m'a fait beaucoup de mal ». Voilà, là, ce jour-là, ce 15 juillet-là, la prédication, il m'a fait vraiment mal, je ne vais pas l'oublier. J'espère pas. Non. Mais en tout cas, on ne se rend pas compte, je vous dis tout ça, parce que parfois, on ne se rend pas compte de ce que nous véhiculons autour de nous. On ne se rend pas compte, parfois, même si on a toutes les bonnes intentions de nous, eh bien, notre témoignage, parfois, nous précède ou nous devance, c'est ce que nous avons peut-être parfois fait, même sans le faire exprès, eh bien, peut faire du mal. Je crois vraiment ce soir, en étant vraiment très équilibré, nous devons, il est bon ce soir devant Dieu de dire « Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne m'éclairer ». Vraiment, même si c'est un détail, un point, un coin de ma vie, mais qui risquerait de faire du mal à mon prochain, qui risquerait d'abîmer un petit peu le corps de Christ, qui risquerait de faire du mal, qui risquerait de me décrédibiliser. Vous savez qu'il suffit d'un grain de sable pour que tout le rouage ne fonctionne plus. Il suffit d'un maillon qui casse pour que la chaîne entière ne puisse plus être utilisée. Et parfois dans nos vies, sans chercher la grosse bête, sans chercher le plus gros des péchés, sans chercher ce qui est le plus noir, mais tout simplement et très sincèrement devant Dieu dire « Seigneur, vraiment, je veux vraiment qu'on mon témoignage, je veux vraiment être... cet homme, cette femme digne de la vocation à laquelle tu m'as appelé, digne du royaume de Dieu, digne des valeurs du royaume de Dieu. » Et je crois que c'est important de pouvoir nous poser cette question ce soir. Et peut-être quelqu'un me dira, mais vous savez, pasteur, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si je dois commencer à plaire à tout le monde, je ne vais pas m'en sortir. Moi, j'y peux rien si les gens ne m'aiment pas. J'y peux rien si les gens ont du mal avec mon caractère. Moi, l'important, c'est que je plaise à Dieu. On dit ça des fois. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas convaincu. Peut-être d'autres vont dire, c'est parce que c'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui vivent dans l'ombre du « qu'en dira-t-on ?» qui vivent seulement dans la perspective de ce que la personne, le dimanche matin, va dire. Est-ce que mes habits sont bien ? Est-ce que j'ai bien parlé ? Est-ce que j'ai bien prié ? Est-ce que la personne qui va me saluer, elle va me dire « Ah frère, merci pour votre prière aujourd'hui. » C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui compte, c'est que ma prière, elle a été efficace. On est là, on pense que à ce que les gens vont nous dire avant même de penser à ce que le Seigneur pense de nous. Ça, c'est l'extrême inverse. Et c'est pas dans ces deux extrêmes-là que je veux nous amener ce soir. C'est vraiment une attitude totalement équilibrée, totalement simple et humble. de nous dire et de savoir se remettre en question de temps en temps et même tout le temps devant Dieu pour dire « Seigneur, rééquilibre-moi ». C'est ce qu'on appelle aussi le chemin de la sanctification, tout simplement. C'est vivre cette sanctification. C'est dire au Seigneur, « Seigneur, ah, ce matin, là, je pense que ce caractère-là, il va falloir que tu travailles un petit peu, Seigneur. J'en ai besoin. J'en ai besoin. On a tous besoin. On est d'accord sur ça. » Alors vraiment, je te termine sur ce point. Prenons le temps. Et on pourra peut-être terminer en priant aussi avec ce point tout à l'heure. Vraiment, Seigneur, sonde mon cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Sonde mon cœur et connais mes voies. Je veux marcher sur les sentiers de la justice. Amen. Je veux marcher dans la vérité. Que le Seigneur nous sonde mon cœur. Je continue. On arrive au verset 17. Après avoir salué et recommandé toutes ces personnes, eh bien, c'est un peu comme si l'apôtre Paul nous disait, on va le lire dans quelques instants, le verset. Bon, pour les personnes que je vous ai citées, vraiment, ce sont des personnes viables, fiables, saintes. Vraiment, je vous les recommande, il n'y a aucun souci, vous pouvez leur faire confiance. Vous pouvez vraiment vous en remettre à eux. Mais faites attention parce qu'il y en a d'autres. On va aller voir ces autres. Et je le dis juste entre parenthèses, cherchons vraiment les bonnes compagnies dans l'Église. Cherchons les amitiés saines. Parce que malheureusement, on va le voir, et on a beau tout faire pour que cela n'arrive pas, d'autres viennent avec un esprit qui n'est pas celui de Dieu, avec un mauvais état d'esprit. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est une vérité, c'est peut-être dur à entendre ce soir, mais c'est une réalité aussi dans le corps de Christ. Je vous exhorte, frères, je suis au verset 17, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Je ne parle pas des gens, des inconvertis, là. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent des cœurs, le cœur des simples. Qui n'a jamais vécu ça dans une église, dans son église ou dans son cercle de chrétiens, d'amitié, chrétienne, je parle, que quelqu'un vienne s'initier et finalement, il s'agissait d'un loup. Il s'agissait de quelqu'un qui n'avait pas les intentions du royaume de Dieu. Ou peut-être quelqu'un les avait, mais il s'est laissé lui-même séduire, il s'est laissé lui-même influencer par des choses mauvaises et a été une mauvaise influence pour d'autres. Mais ce qui m'interpelle vraiment dans ce verset, dans ces deux versets, ce sont ces quelques mots « éloignez-vous d'eux ». Et je crois là qu'il y a une grande leçon pour nous. Parce que je ne pense pas que c'est toujours la première réaction qu'on a si quelqu'un viendrait faire du mal à mon épouse, à mes enfants. Si quelqu'un viendrait faire du mal ou parler ou porter atteinte à un ami qui vous est proche ou séduire ou essayer de l'amener sur un chemin détourné, vous auriez plutôt tendance à lever du poing, on va dire, schématiquement, d'accord, pas physiquement, s'il vous plaît. Mais on n'aurait pas forcément tendance à s'éloigner. Pourtant, c'est ce que l'apôtre nous dit. Parce que la question n'est pas de voir le mal ou les mauvaises personnes partout, je dis ça aussi, d'accord, et la question n'est pas d'aller chercher partout où est-ce qu'il y a des mauvaises personnes. Le but n'est pas ce soir d'aller dire « Ah, lui, il m'a mal parlé, alors lui, ça doit être un séducteur ». Non, 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 on n'est pas dans cet extrême-là, vraiment. S'il vous plaît, suivez-moi bien, d'accord. Le but n'est pas d'aller chercher les mauvaises personnes dans l'église ce soir. Non, 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 s'il vous plaît, soyons sages. Mais c'est vraiment d'avoir un œil attentif. Parce qu'il y aura toujours, toujours. Et nous, en tant que pasteurs, c'est vrai que c'est difficile d'empêcher. C'est un lieu public, on ne peut pas empêcher des hommes, des femmes d'entrer dans ce lieu, de s'attacher, d'être sympathisants à l'église. Et nous, en tant que pasteurs, c'est vrai que nous avons un rôle particulier de discerner en tant que bergers ceux qui seraient comme des éventuels loups et de les faire sortir. Et nous prions et prier pour nous aussi, pour que le Seigneur nous donne le discernement, la révélation aussi, pour savoir s'il y aurait des personnes, s'il y aurait des états d'esprit. Plus que des personnes, parfois, c'est un état d'esprit, c'est un cœur qui serait là pour essayer de séduire, qui serait là caché pour essayer de nuire à l'Église. Je crois qu'à tout, à nos différents niveaux, et même dans nos cercles à nous, d'amitié chrétienne et même à l'extérieur, nous devons avoir cet œil vigilant de savoir qu'est-ce que nous laissons introduire comme amitié, comme fréquentation, comme personne dans nos vies qui pourrait nous déstabiliser. Et l'apôtre ne nous encourage pas à ce moment-là à la confrontation. L'apôtre ne cherche pas... Il y a des passages où il dit de reprendre un frère, mais on n'est pas dans ce contexte-là de reprendre un frère qui a péché, etc. Là, c'est un cas que seul Dieu peut résoudre. Et il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Il y a des combats vraiment, que ce soit malheureusement même dans l'Église, on ne doit pas chercher à combattre. Et même dans nos vies, ne cherchons pas à nous faire justice nous-mêmes, ne cherchons pas à régler des combats avec des forces, des outils que nous n'avons pas en notre main. Il y a des fréquentations, des influences avec lesquelles vraiment il faut plutôt s'éloigner, plutôt que de chercher un petit peu à se frictionner, essayer de résister, de dire non mais c'est bon, je peux rester avec cette personne, moi je vais rester le même. Vous savez, si vous mettez une teinture rouge sur une teinture blanche, vous la laissez au soleil, vous la laissez avec l'humidité, le rouge va déteindre sur le blanc. Même si le blanc, il a toute la volonté du monde de rester blanc, le rouge va déteindre. Et il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Il faut plutôt s'éloigner de peur, sous peine d'être affecté, infecté, peut-être d'être divisé, d'être scandalisé. Nous ne le répétons aussi assez jamais, mais ne nous laissons jamais séduire par des enseignements farfelus qu'il nous faudrait plutôt fuir avant même de discuter. Vous savez, il y a des personnes avec qui il ne faut pas chercher à discuter. Il y a des enseignements, il y a des débats qu'il ne faut pas avoir. Des fois, on a envie parce que ça bouillonne. Quand quelqu'un nous dit, quelqu'un m'avait dit, Jésus et Satan étaient frères. C'est les mormons qui disent ça. On peut dire, oui, mais voilà, le verset de la Bible nous dit, il n'y a rien, Satan était un ange, une créature, etc. Oui, ben, j'ai essayé de le faire quand j'étais plus jeune, ils sont convaincus de ce qu'ils veulent. Mais moi, j'étais convaincu de la vérité. Et la meilleure chose pour moi, c'était plutôt de m'éloigner de ces personnes-là, et c'est ce qui est le plus fort pour nous. Il y a des relations vraiment, frères et sœurs, chers amis, on le dit souvent, qui peuvent empoisonner nos vies, qui peuvent vraiment, vraiment vous dénaturer. Eux, ils resteront ce qu'ils sont. Mais vous, vous allez devenir quelqu'un que vous ne deviez pas être parce que vous avez laissé pénétrer dans votre intimité. Il y a des personnes, vous savez, même dans l'Église, qui chercheront à avoir une relation exclusive avec vous. Ils chercheront là et tous les dimanches, ils seront là pour vous donner une parole, pour vous donner un encouragement. Mais derrière, eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vous détourner de Jésus-Christ. Il y a des personnes, nous, on l'a vu, on l'a vécu, des personnes qui viennent juste parce qu'ils ont des intentions sexuelles, disons-le aussi très explicitement, ils cherchent un homme, ils cherchent une femme, ils ne cherchent pas le royaume de Dieu et sa justice. Non, non, ils ne sont pas là pour ça. Ils cherchent leur ventre, c'est ce qu'on a lu. Ils cherchent à assouvir leur appétit. Éloignons-nous, soyons vigilants. Éloignons-nous de ces personnes. Éloignons-nous dans notre contexte professionnel, familial, c'est encore plus marquant, amical. Éloignons-nous de ceux, de celles qui pourrait vraiment nous déstabiliser dans notre foi. C'est important. Et soyons aussi rassurés que celui qui touche au corps de Christ touche à Christ lui-même. C'est ce qui doit nous rassurer ce soir et c'est ce qui doit aussi nous amener à ne pas chercher la confrontation. Christ lui-même saura mieux que nous se charger de cela. À lui soit la vengeance, la justice. C'est pas à nous. C'est pas à nous de faire ça. Et Paul le rappelle d'ailleurs quelques versets plus tard, on va lire dans quelques instants. Alors jusqu'à présent, je continue, l'apôtre Paul a parlé aux autres. Maintenant, il s'adresse aux Romains directement. Vous voyez déjà jusque-là le tableau qui s'est dessiné. Il a dépeint le tableau de ces héroïques, presque de ces héros de la foi, là, ces 29 personnes extraordinaires, confiez-vous en eux. Et puis le reste, attention aux séducteurs, attention à ceux qui vous veulent du mal. Vous voyez pourquoi aussi il a cité le nom de ces personnes dans cette lettre, pour faire vraiment le paradoxe. Et là, maintenant, il s'adresse aux Romains. Il leur dit maintenant, et vous, on arrive au verset 19, je lis dans la version Semeur, « Votre obéissance est connue de tous, et cela me remplit de joie. » Ça, c'est une bonne nouvelle. « Mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. » Et le verset dont je vous disais tout à l'heure, « Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. » Quelle puissance dans ces versets. Vous savez, il n'y a presque rien à rajouter. Il faut juste le lire, dire Seigneur. Et parfois, c'est dur pour un prédicateur, parce que nous, la maladie d'un prédicateur, c'est de chercher à mettre des mots alors que tout est écrit. Et là, le Seigneur vraiment, vraiment, nous parle très explicitement. Et j'aime ce verset parce que l'apôtre Paul félicite d'abord le témoignage public, le bon témoignage de cette église qui était obéissante. Bravo pour votre obéissance, ça me remplit de joie. Bravo, c'est une marque de bon témoignage. Si des inconvertis, si des personnes qui ne craignent pas Dieu entrent dans ce lieu, ils vont voir qu'il y a une différence, ça c'est génial. Et ça c'est ce qui démarque, c'est ce qui marque le corps de Christ, sa différence, et particulièrement dans l'obéissance à Dieu, ça c'est certain. Et c'est comme s'il dit, tenez bon dans votre obéissance. Sachez discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Résistez, continuez, avancez, ne vous inquiétez pas. Parce que le Seigneur ne tardera pas. Et celui qui finira par lâcher, ce n'est pas vous. Celui qui finira par tomber, ce n'est pas vous. Celui qui finira par faire marche arrière, ce n'est pas vous. c'est l'ennemi, c'est Satan. Parce que, vous savez, Dieu aussi a écrit son avenir. Dieu a aussi écrit cette lettre pour le diable, pour lui dire, mais toi, ton avenir, il est déjà écrit. Ton avenir à toi, ce n'est pas de tomber. Ton avenir à toi, ce n'est pas d'être complètement perturbé par tout ce qui se passe autour de toi, d'être complètement chamboulé. Ton avenir à toi, ce n'est pas de tomber, de retomber, de retomber encore dans le péché. Ton avenir à toi, c'est d'être un homme, une femme qui avance, qui court vers son but, vers la perfection, vers le royaume, vers Dieu. Amen. Par contre, la finalité du diable, ça, c'est une réalité qui doit certainement lui faire très peur. Parce que Dieu finira, et Dieu finira toujours par venir à notre aide. Et combien ces versets sont appropriés pour nous aujourd'hui, pour la génération dans laquelle nous vivons aussi, je le crois. Et que notre aspiration soit la même que cette Église, et que tous d'abord puissent reconnaître notre différence dans l'obéissance envers Dieu. Et je le répète, alors que nous cherchons à obéir, à discerner, à nous attacher à ce qui est bon, même si parfois on serait tenté d'être fatigué. C'est vrai, parfois la marche avec le Seigneur, c'est dur, c'est pénible, c'est fatigant, on soupire. Parfois, d'obéir à Dieu, ça nous coûte, c'est vrai. Parfois, d'obéir à Dieu, c'est tellement plus simple de désobéir. C'est dans la nature de l'homme. Et c'est un vrai effort de chercher la justice, de chercher ce qui est bon. Mais heureusement, le prince de paix nous assure sa paix, sa présence et affirme, je répète une dernière fois, qu'il se chargera personnellement de la destinée de notre adversaire. Et je termine avec les derniers versets. Je voulais vraiment les lire parce que qu'il puisse nous suivre encore dans les prochaines semaines et vous suivre. Je lis le verset 25 dans la version du Semeur. « Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort. » Tu peux le prendre pour toi. « Il a le pouvoir de me rendre fort dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. » C'est Paul qui parle. « Et le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. » Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'il soit amené à lui obéir en croyant. Dans ce verset-là, il y a vraiment un résumé de tout l'Épître aux Romains. Rappelez-vous le contexte, les Romains s'adressaient, la lettre s'adressait à un peuple cosmopolite. Les Romains étaient faits de plusieurs nations. Il y avait des Juifs et des non-Juifs. Et il y avait, l'apôtre Paul a dû remettre en ordre la doctrine, les éléments principaux de la base de la foi et de bien expliquer. Vous vous rappelez, on a parlé, même il y avait des questions de circoncision, de non-circoncision, on voulait réintroduire la loi, etc. Et l'apôtre Paul vraiment remet les choses au centre et veut vraiment remettre au centre cet élément essentiel qu'il appelle le plan de Dieu tenu secret. Et vous savez, le plan tenu secret, eh bien oui, nous savons tous, c'est le salut pour tous les hommes. Ça, c'était le plan de Dieu. Les Juifs avaient cru que le salut, c'était pas d'abord pour les Juifs seulement, mais c'était seulement pour les Juifs. Et ils attendent encore aujourd'hui le salut. C'est tragique. Alors que le salut est venu. Pour les Juifs, premièrement, la Bible nous dit, mais pour tous ceux qui ont cru, pour les non-Juifs. Et nous sommes une représentation magnifique de ce plan caché qui a été révélé, qui a été dévoilé aussi en partie par l'apôtre Paul dans ce passage. Et nous sommes aujourd'hui les fruits de ce salut. Et ça, c'est un des piliers de ce passage, de cet épître. Et ce message va plus loin, et je terminerai avec ce point, parce que le but de ce plan de salut, eh bien, c'est de maintenir et de créer d'abord et de maintenir une unité entre les croyants. Et si Jésus-Christ, si la parole de Dieu n'était pas au centre de cette unité, on ne pourrait pas vivre cette unité. Vous l'avez entendu, c'est revenu très souvent ce thème dans les autres prédications. On peut pas, c'est difficile de vivre une unité humaine. On a des cultures différentes, des éducations différentes, des habitudes différentes, parfois des langages différents. C'est difficile, très sincèrement, d'être unis. Si on devait avoir une entreprise ensemble et faire des choses très humaines, très facilement, on pourrait avoir des discordances parce que c'est compliqué. Mais il y a quelque chose qui nous unit. Il y a quelque chose qui est au centre de tout, qui nous unit, qui nous lie les uns aux autres. C'est le plan de salut. C'est ce plan qui était tenu caché. C'est Jésus-Christ pour tous les hommes, femmes, juifs, non-juifs et pour nous tous. Amen. Et c'est ça ce qui nous unit. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un corps lié. Et vous savez, le diable sait qu'il y a, il y a un point très important là. Parce que si le diable arrive à diviser, à désunir, à désharmonir une église, il a tout gagné. Vous savez que vous avez peut-être vécu même des divisions dans une division dans une église, je ne sais pas, mais c'est quasiment impossible pour une église de se reconstruire. On recrée une église avec une bride de personnes, d'autres vont ailleurs, etc. Ça fait des drames dans les villes, les gens sont complètement perdus, etc. Si le diable arrive à diviser le corps de Christ, ben il divise Christ presque. C'est un peu l'image qu'il pourrait nous donner. Le corps n'est plus ensemble. Et l'apôtre Paul écrit aussi cette lettre pour vraiment encourager, même si vous êtes différents, même si humainement vous auriez toutes les raisons de vous désunir, d'être en confrontation, parce que vous avez le même Sauveur, le même Seigneur, parce que vous avez le même Évangile, la vérité, parce que vous avez le même avenir, parce que vous avez la même espérance. Maintenez, gardez cette unité qui vous compose, qui vous caractérise, qui nous caractérise, nous, enfants de Dieu. Et je crois que nous devons travailler constamment, constamment à maintenir cette unité entre nous, à garder cette unité entre nous. Amen. Ça, c'est une force que l'adversaire aura beaucoup de mal. À détruire. Et ce dernier verset, c'est comme si l'apôtre Paul remet les clés de la lettre à Dieu et lui dit « À ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. » Amen. C'est bon, tout simplement, de dire « Seigneur, merci, parce que vraiment, toi, tu as la sagesse. Tiens, toi, tu sais tout et je te remets tout. Amen. » Est-ce qu'on peut terminer en se levant, en priant? On a terminé cette épître. Relisez-la, réinstruisez-vous par cette épître aux Romains. Elle est tellement riche. Et on n'a certainement pas tout dit. On a certainement survolé beaucoup de choses. Il y aurait encore beaucoup de choses à voir. Mais j'aimerais vraiment ce soir qu'on puisse prier ensemble pour que nous puissions voir du concret jour après jour. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on prie pour ces points que j'ai cités au début aussi et qui sont révélateurs d'une bonne unité. Est-ce qu'on pourrait dire simplement, tout simplement, on n'a pas de musique, on n'a pas besoin d'ambiance là, on dit simplement au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur. S'il y a quelque chose dans ma vie ce soir qui pourrait être une cause de division dans l'Église, qui pourrait être une cause de désharmonie avec mon frère et ma sœur, une cause de tension qui pourrait faire du mal à l'un de ses plus petits, Seigneur, viens sonder mon cœur et viens purifier. Moi, je prie pour moi, Seigneur, d'abord. Seigneur, et nous te prions ensemble maintenant. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour chacun d'entre nous? Priez pour toi, prie pour toi, pour que le Seigneur te garde. Si tu sais pertinemment dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu et qui pourrait détruire, faire du mal à quelqu'un, remets-le tout de suite à la croix. Remets-le tout de suite devant Jésus. Ne laisse pas Jésus se charger de cela parce que ça fera beaucoup plus mal. Laisse maintenant au pied de la croix quelque chose qui pourrait te faire mal et faire du mal au corps de Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur. Et nous te prions ensemble pour que tu viennes sonder nos cœurs et nos vies. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, pour que nous puissions vraiment être des hommes et des femmes dignes de la vocation à laquelle tu nous as appelés. Seigneur Jésus, que si un jour, Seigneur, et parce qu'un jour, toi aussi, tu ouvriras un livre, ce livre de vie, Seigneur, dans lequel nos noms sont écrits. Et Seigneur Jésus, nous désirons, Seigneur Jésus, que quand tu ouvriras nos livres, ce livre, et quand tu citeras nos noms, Seigneur, tu puisses citer, Seigneur, des qualificatifs qui nous honoreront. Seigneur, et que nous ne serons pas confus, Seigneur, mais nous serons honorés, Seigneur, quand tu diras « Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître, mon bien-aimé, mon fils, ma fille, bravo pour ce que tu as fait, bravo pour ce que tu as semé. » Seigneur, s'il y aurait quelque chose qui n'aurait pas été dans ce sens-là, viens, Seigneur Jésus, agir maintenant. Si nous avons besoin que notre orgueil soit brisé, viens briser notre orgueil. Seigneur, si nous avons besoin d'avoir moins les regards, Seigneur, tournez vers nous et plutôt vers les autres, viens, Seigneur, faire ce soir cette œuvre en nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions pour chacun, pour que cette église, Seigneur Jésus, soit une église qui respire la bonne odeur de Jésus-Christ. Pour que si quelqu'un entre dans ce lieu, même s'il a des mauvaises intentions, il puisse être touché par l'Esprit de Dieu parce qu'il y a de l'amour. Seigneur, à ceux-ci, ils connaîtront que vous êtes mes enfants parce que vous avez de l'amour les uns envers les autres. Seigneur Jésus, nous te prions vraiment pour qu'il y ait des bonnes intentions les uns envers les autres, pour qu'il y ait des bonnes amitiés les uns envers les autres. Et nous te prions vraiment pour que tu protèges cette église maintenant aussi. Que tu protèges chaque homme, chaque femme, Seigneur, des tentations extérieures, de la séduction extérieure, de ceux, Seigneur, que ta parole appelle comme des loups qui sont venus pour dérober. Seigneur, il y en a un qui est venu pour voler, pour détruire. Seigneur Jésus, pour tuer, c'est l'adversaire. Seigneur, et nous voulons être, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui se tiennent à la brèche pour garder le camp de l'Éternel, pour garder le troupeau, Seigneur Jésus, et prier, Seigneur, que rien ne vienne perturber ton Église, Que rien ne vienne séduire. Seigneur, que l'esprit de ce monde ne vienne pas dénaturer, Seigneur, l'esprit de cette église. Seigneur, que l'esprit de ce monde ne vienne pas perturber l'esprit de vie qui anime cette église. Seigneur, mais qu'au contraire, ce soit l'esprit qui habite cette église qui vienne chambouler ce monde qui est autour de nous. Seigneur, nous te prions vraiment pour que cette église encore puisse accroître sa renommée dans cette ville, Seigneur, dans cette génération, que des hommes et des femmes soient touchés, Seigneur, par l'église, par les métropoles, par chacun de ces chrétiens, Seigneur, par chacune des vies qui nous compose, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole, enfin. Terminons avec cela. Merci, Jésus, pour cette épître si merveilleuse que tu nous as donnée. Merci pour cette lettre qui nous est aussi adressée. Merci, Seigneur, parce que oui, tu es ce Dieu véritablement sage. Et nous nous remettons encore et toujours et seulement à toi, Seigneur. Pour toujours, Seigneur. Merci parce que tu reviens bientôt. Tu ne tardes pas, Seigneur, et nous en sommes rassurés, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen.